on se pose tous des questions après cette charge violente contre le système Internet et puis aussi l'espionnage par les entreprises et par l'État. Et puis on a toujours bien entendu peur que ce qui se passe aux États-Unis, qui a 10 ou 15 ou 20 ans d'avance sur nous, diffuse petit à petit en Europe et dans nos pays. Donc ça sera l'occasion maintenant de savoir si tout ce qu'on a vu est vraiment à charge et un petit peu exagéré ou bien si c'est réel et s'il faut avoir peur. Donc je vous présente à nos deux intervenants pour ce soir qui sont donc tous les deux enseignants à l'Université de Savoie. Donc Florent Lorne qui enseigne tout ce qui est réseau, télécommunications et ce qui a trait aussi donc à l'informatique appliquée. Et puis Christian Martel, lui qui est pur informaticien, donc qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, qui commence, hein, comme d'habitude, la première question est souvent difficile à démarrer. Ou peut-être vous avez un petit commentaire à faire sur le film, comme vous voulez.
Bon, je commence. Il faut lancer le truc. Oui, d'abord c'était effrayant, quoi. Enfin, le commentaire que je peux faire, c'est que c'était vraiment inquiétant. Après, évidemment, la situation américaine n'est pas forcément la situation française en regard de la protection de la vie privée. Hein, c'est-à-dire qu'il faut relativiser les choses. Bon, je sais que les États-Unis sont une superpuissance technologique qui en impose au monde entier, mais en même temps, on a quand même des barrières juridiques qui se mettent progressivement en place. Bon, je prendrai qu'un seul exemple qui est très récent, qui concerne le droit à l'oubli. Peut-être vous en avez entendu parler très récemment dans la presse, d'accord. Donc il y a une discussion avec Google actuellement de la part des gouvernements européens pour essayer d'imposer à Google l'obligation d'éliminer un certain nombre de liens qui font référence à travers les moteurs de recherche à des choses que vous avez pu publier, faire, etc. Et il ne faut plus que ces moteurs fournissent ces liens en réponse aux requêtes qui sont passées. Voilà. Alors, il y a un débat très compliqué sur le plan juridique, bien entendu, pour savoir, parce que Google se bat en expliquant que bon, ok, d'accord, on est d'accord. C'est-à-dire que si on fait une requête en France, comme on est français, le droit à l'oubli vaut sur le territoire national, en quelque sorte, mais à partir du moment où la requête est passée aux États-Unis, la situation est bien différente. Voilà. Bon, bref. Il y a une bataille qui est permanente pour essayer de défendre effectivement et de dresser des barrières de protection sur les questions relatives à la vie privée qui sont évidemment des questions tout à fait fondamentales et qui préoccupent énormément, mais pas seulement les informaticiens, enfin les citoyens d'une manière générale. Donc je pense qu'il faut pas. On peut avoir l'impression, bon, la vision du représentant non officiel, je finis, hein, du représentant non officiel des anonymes, des anonymous, c'est de dire ouais, bon, c'est cuit, on est tous morts, voilà. Moi, je ne crois pas ça. Je crois plutôt que il y a des gens qui travaillent pour essayer. Il y a des gens qui travaillent à tous les niveaux, hein, au niveau juridique, au niveau économique, au niveau technique, bien entendu. Et j'essaierai de donner 2-3 exemples pour essayer justement d'améliorer les conditions de la protection de la vie privée, ce qui est tout à fait essentiel. Voilà. Donc moi, je n'ai pas une vision du tout désespérée, même si effectivement, j'étais un peu effrayé. Voilà. Florent, tu...
Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je pense que tu as bien fait un peu le tour. Moi non plus, je ne suis pas forcément effrayé. Je trouvais le film, ça fait... Quand on part du titre et après, quand on regarde ce qui est développé derrière, au début, on part d'un côté assez économique des entreprises, et c'est le titre du film, Les Nouveaux Loups du Web. Après, on dévie très rapidement sur des surveillances étatiques, on va dire, des gouvernements qui sont mis en place. Ces surveillances, elles existent, hein, elles ont toujours existé. Quand il y a le téléphone, les opérateurs sont tenus en France, hein, ils enregistrent les numéros de téléphone qu'on appelle, qu'on joint, et ainsi de suite. Ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça, entre guillemets. Là, ils rajoutent, je trouve, une couche supplémentaire. Donc, enfin, moi, je trouve, j'ai du mal à savoir, en fait, de quoi il faut avoir peur quand je regarde le film. Est-ce qu'il faut mieux avoir peur des sociétés privées? Entre autres, pour information, Google et les grosses sociétés américaines sont aussi en conflit fort avec le gouvernement américain sur des questions de cryptographie. Parce que justement, sachant que les opérateurs, les FAI, ils ont l'obligation de remonter les informations au gouvernement, les fournisseurs de services donc ont cette obligation-là. Les grosses sociétés ont dit on va tout chiffrer. Et les gouvernements sont plutôt contre ça. Et actuellement, ils se battent pour qu'on essaye de déchiffrer les choses. Et donc, en fait, s'il y a autant de batailles économiques et que juridiques derrière tout ça, c'est toujours un peu un compromis. Après, jusqu'où ça va nous mener, actuellement, par exemple, il y a des lois en France qui sont votées très dernièrement, justement, sur une surveillance de plus en plus accrue, une surveillance non ciblée, c'est-à-dire massive, qui est mise en place. Donc ça, c'est très récent. Bon, je ne sais pas, peut-être laisser la parole un peu. Ouais.
Oui, donc, qui se lance pour la première question? Vous avez... pardon. Alors, avant de poser une question, attendez le micro, parce que vous êtes enregistré, pas par la NSA, mais simplement parce que vous êtes mis en ligne sur notre site.
La dernière phrase du film nous dit de réagir. Comment? À notre échelle, à l'échelle d'un État, à l'échelle d'une société.
Oui, alors je pense c'est évidemment la question qui se pose, c'est bon, en admettant que la situation soit aussi noire, que le tableau soit aussi angoissant, la question c'est peut-on pratiquer une légitime autodéfense pour essayer de se protéger, par exemple? Alors bon, je pense qu'il y a plein de niveaux, le film le montre assez bien, parce que cette affaire-là est un peu cousue de paradoxes en réalité, c'est-à-dire qu'on a à la fois. C'est un peu le problème. Vous voulez tous même à Chambéry, des caméras de vidéosurveillance dans les montées d'immeubles. Enfin, un certain nombre de gens approuvent ces décisions. Et puis en même temps, non, on n'a pas envie que la caméra elle soit dans sa propre montée parce qu'on a évidemment envie que sa vie personnelle soit protégée. En même temps, bon, on a besoin de. Voilà, on reconnaît. On est à peu près tous d'accord. Enfin, pas tous, hein, mais on est un certain nombre. Il semblerait qu'il y ait un grand nombre de gens qui soient d'accord avec des problèmes relatifs à la mise en place d'un état d'urgence sous une forme plus permanente, etc. Et pour autant, on aimerait bien ne pas assister à certains débordements auxquels on a pu assister au cours de la période récente. Bon, voilà, tous ces paradoxes sont présents. Et effectivement, il y a plein d'actions qui peuvent être menées. Alors, moi, j'ai cité des actions qui sont des actions que mène la CNIL, par exemple. En France, on a une Commission nationale informatique et liberté qui fait un travail considérable, qui interdit par exemple systématiquement que les fichiers informatiques soient agrégés, c'est-à-dire qu'on rassemble des informations de différentes origines, ça a été évoqué dans le film, et qu'on en fasse un seul profil pour un utilisateur dans lequel vous auriez un peu toutes les informations qui le concernent. Bon, ça, c'est pas possible ici. Mais il y a d'autres modes d'action. Vous pouvez vous-même individuellement, dans votre pratique ordinaire de l'Internet, faire des choses pour vous protéger. Hein, protéger. Je vais prendre un exemple qui est toujours un peu amusant, mais caricatural. Mais il y a des études qui ont été réalisées sur la manière dont vous créez des mots de passe et dont vous les utilisez. Hein. Et on s'est rendu compte effectivement que 40 ou 45% d'entre vous, alors peut-être pas les gens qui sont ici, mais 40. Statistiquement, 40% des gens créent des mots de passe dont le qui correspond en fait au prénom de leur femme ou de leur mari, à la date d'anniversaire, à leur date d'anniversaire. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont extrêmement faciles à trouver, à décoder et à utiliser ensuite. Voilà. De la même manière exactement que beaucoup de gens. Note le code de leur carte bleue dans la pochette qui sert, stocke le code de leur carte bleue à côté de la carte bleue dans la pochette qui sert à conserver la carte bleue. Voilà. Donc il y a à la fois des pratiques personnelles qu'il faut savoir mettre en place. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est de faire comprendre, en particulier aux enfants, et les enfants ne sont pas idiots, et ils le savent bien, par exemple, vous savez très bien qu'ils utilisent une application qui s'appelle Snapchat, voilà, qui est un chat, en fait, c'est quelque chose qui leur permet de communiquer avec leurs copains. Voilà, ils utilisent ça, et c'est des trucs qui ne laissent pas de traces, hein, c'est-à-dire qu'en principe, hein, d'accord, c'est-à-dire qu'ils envoient une photo, et cette photo, sitôt consultée, est éliminée, c'est ça ? Et donc, si vous voulez, il y a un travail de, il y a aussi un travail éducatif à faire pour essayer de comprendre ce que sont les données, hein, quelle importance ces données revêtent, quels sont les types de données qui sont réellement importantes, et puis, d'une manière générale, quelles sont les pratiques que vous pouvez avoir d'Internet, qui est une pratique qui peut être excessive dans certains cas, hein, c'est-à-dire raconter sa vie sur Facebook, dans les moindres détails, ça peut présenter des inconvénients au bout d'un certain temps, hein. On a plein d'exemples de scénarios dans lesquels la cuite que vous avez prise le samedi soir vous est remise sous le nez au moment le plus inopportun, enfin, et sans même parler de choses plus embêtantes. Bon, le film a donné plein d'exemples qui sont tout à fait pertinents. Voilà. Donc quoi faire ? Tout un ensemble de choses. Vous pouvez utiliser, comme l'a dit Florent, des solutions de cryptage, hein, personnelles, qui vous permettent de crypter tous vos messages et de transmettre à vos interlocuteurs via ce qu'on appelle un système de clés privées, clés publiques. En gros, un système dans lequel vous avez défini une clé qui va ouvrir des cadenas. Vous avez distribué les cadenas aux gens. Les gens vous envoient des messages dans des boîtes qu'ils ferment avec les cadenas que vous leur avez donnés. Et vous, vous avez la clé pour ouvrir les cadenas. D'accord ? Et personne ne peut regarder ce qu'il y a dans la boîte s'il n'a pas la clé pour ouvrir les cadenas. Vous pouvez faire des choses comme ça. Voilà. Florent ?
Juste, enfin, moi, pour répondre à la question aussi, pour revenir là-dessus, moi, je pense que ce qui est évident, fondamental, enfin, je suis enseignant, alors c'est pour ça que je vais dire ça, c'est la formation avant tout. La formation et l'information, donc par exemple par le cadre de ces cafés scientifiques, entre guillemets, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, par exemple... présenter aux gens quelles sont les limites, quelles sont les façons de faire, quels sont les avantages, les inconvénients, essayer d'avoir un petit peu des réflexions ouvertes là-dessus. Je prends un exemple là, sur la loi actuelle, il y a, donc, sur la surveillance massive. Actuellement, les spécialistes ils estiment que d'ailleurs, c'est un peu ce qui est montré dans le film, allez, on a des algorithmes qui vont être prédictifs à 99%. C'est-à-dire que, bon, grosso modo, ça a marché dans 99% des cas. Il y a 1% des cas sur lesquels ça n'a pas marché. Sur 60 millions de Français, ça fait à peu près 600 000 personnes sur lesquelles ça va donner des fausses informations. Enfin, ça veut dire que, grosso modo, si on utilise ces types de logiciels, il faudra envoyer 600 000 policiers à aller vérifier que l'information elle est bonne. Sachant que, grosso modo, allez, potentiellement, il y a 3 000 terroristes, que jusqu'à présent, les informations montraient qu'ils étaient déjà tous fichés, qu'on les connaissait déjà tous, est-ce que ça vaut le coup, ne serait-ce que financièrement, de dépenser une somme colossale, parce que c'est quand même colossal, de prélever ces données, après d'aller vérifier les informations pour, au final, un résultat très faible pour des informations qu'on connaissait déjà. Enfin, donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles il faut peut-être s'interroger, il faut peut-être se poser les questions. C'est du pur technique, hein. Enfin, c'est pas... je ne vais pas rentrer dans des débats philosophiques là, mais c'est juste dire voilà, on a des algorithmes qui fonctionnent quand même à 99%, c'est quand même un algorithme qui fonctionne très bien, hein. Dans la majorité des cas, je ne suis pas sûr qu'on soit à ce niveau-là, mais voilà, il faut recentrer, avoir un peu une vision des chiffres.
Merci. Une autre question ?
La réflexion qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que trop d'informations tue l'information. Et en fait, on n'est pas apte à trier toutes ces informations. Je me dis, avec toute, quand on peut savoir exactement tous les détails sur une vie privée, je ne comprends pas comment on ne peut pas savoir où sont situées toutes les Kalachnikov qui traînent dans le monde.
Bien. Je pense que... Enfin, tout le monde connaît l'histoire de Ben Laden qui avait, il avait fait une chose très simple, Ben Laden. Il avait supprimé tous les téléphones portables de son entourage. D'ailleurs, en fait, il n'y avait plus personne qui avait le droit de pénétrer chez lui avec un téléphone portable dans la poche. Et lui-même n'en utilisait pas. Et il avait ressuscité un vieux système très archaïque et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il s'était payé un messager permanent qui faisait des allers-retours entre Islamabad et je ne sais pas où. Et c'est en suivant ce type-là qu'ils l'ont trouvé, en définitive. Hein. C'est-à-dire que c'est en suivant le messager qu'ils ont fini par savoir où il était. Mais lui ne communiquait plus jamais. D'accord ? Jamais. Voilà. Donc, ça, c'est la... Alors, si vous voulez, pour le trouver, il a fallu utiliser d'autres méthodes, des vieilles méthodes, des bonnes vieilles méthodes d'observation, etc., qui étaient bien plus... qui nécessitait beaucoup moins de technologie, mais peut-être plus de personnel, je ne sais pas. Enfin, voilà. Moi, ce que je dis simplement, c'est que, effectivement, toute cette information n'est pas directement exploitée. Enfin, si vous voulez, les exemples qui sont un peu caricaturaux dans le film sont intéressants parce qu'ils montrent la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que quand vous écrivez que vous allez détruire l'Amérique... Hein, En pensant que vous allez faire une bringue d'enfer qui va en fait voilà qui est une et vous faites une métaphore, une comparaison entre voilà un trait humoristique qui peut être interprété comme on veut, on est devant un problème très compliqué. C'est que bon bah dès qu'on dit quelque chose, si vous voulez, ce qu'on dit peut être tout à fait implicite, peut contenir de l'implicite, peut être décodé par notre interlocuteur en fonction des connaissances préalables qu'il a sur nous, etc. Ce que un système qui écoute ne sait pas faire, c'est-à-dire le système qui écoute ne sait pas faire la part des choses. Donc, son analyse va être extrêmement brutale. Mais je pense que le type à qui c'est arrivé, lui, il a compris, si vous voulez, qu'il a deux solutions. Hein, où il se met à utiliser des formules, à faire de l'autocensure, hein, c'est-à-dire à ne plus dire des choses comme ça. Ou alors, il va utiliser d'autres techniques pour essayer de protéger ses communications, puisqu'il n'a pas d'autre solution. Hein. Tout le monde sait qu'on ne peut pas être sincère. Enfin, comment dire ? On ne peut pas être sincère dans la vie en permanence et à tous les moments et ne dire que la vérité tout le temps. Enfin, la vie serait parfaitement invivable si on disait, on rentrait le soir et on faisait un rapport exhaustif de tout ce qu'on a fait. D'une manière précise, en disant exactement la vérité. Essayez, faites le test, et puis vous verrez dans quel enfer vous allez très rapidement vous retrouver. Ce n'est pas possible. Donc là, ils sont confrontés, enfin, les gens qui écoutent, à supposer qu'ils écoutent, sont confrontés au même problème. C'est impossible de... Il y a un moment, si vous voulez, où le système a beau accumuler les données. Alors, ce qui est beaucoup plus embêtant, effectivement, c'est... le fait qu'on conserve des informations suffisamment longtemps pour que le moment venu, s'il se passe quelque chose, on revienne en arrière. Et alors là, on commence à réinterpréter, vous voyez ce que je veux dire, en fonction de ce qu'on sait de la situation nouvelle. Alors là, par contre, là-dessus, il va falloir regarder la question sérieusement, c'est-à-dire la période pendant laquelle les informations sont conservées qui permettrait ce retour en arrière. Je pense qu'en France, Florent, il va me dire ça parce qu'il connaît mieux le problème que moi, mais en France, c'est... la durée de conservation des informations, elle est limitée dans le temps. Je ne sais plus exactement si c'est quelques jours ou un an. Je pense que c'est un an. Ouais. Et ces informations ne sont accessibles qu'à un juge. Hein, d'accord ? Il faut une ordonnance de juge pour pouvoir y accéder. Voilà.
Merci. D'autres questions ?
Alors, moi, j'en avais une. Il y en a une. Je poserai la question après.
Ma question, c'était à quel point c'est rassurant de se dire qu'en France, tout va bien, alors qu'on parle d'un réseau qui est mondial, qu'on est tous plus ou moins amenés à voyager, de se dire tout va bien, je suis en France, la CNIL est là, elle me protège, tant que je ne vais pas en voyage aux États-Unis, tout va bien. Dans une perspective au-delà de nos frontières, au-delà de l'Europe, disons, qu'est-ce qu'on a comme solution ou comme hypothèse ?
Bien. Bon, je peux donner l'exemple quand je me déplace de temps en temps en Chine, on nous conseille de ne pas emmener notre PC habituel et puis de rien mettre sur le disque dur, etc. etc. Parce que quand vous branchez sur une prise... il est possible qu'on vous pirate, qu'on copie votre disque dur. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, c'est pas uniquement les États-Unis, hein, c'est tout ce que je voulais dire.
Moi, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Après, ces accords bilatéraux, enfin, grosso modo, c'est des accords qui sont politiques, ce sont des contrats qui sont passés entre guillemets entre gouvernements. La législation, enfin, sur plein de points, enfin, c'est pas que lié à l'informatique, c'est pas que lié au traitement de données. Hein. Je prends un exemple simple, un paradis fiscal, ça existe, hein, et puis on peut rien faire contre. Enfin, actuellement, enfin, c'est compliqué de lutter contre. Donc, je suis pas sûr que. D'abord, il faut voir que la législation américaine, là, je trouve que c'est un petit peu noirci. Paradoxalement, j'ai l'impression presque plus que les Américains, ils ont plus, d'un certain côté, une accroche à la liberté que les Européens, d'un certain côté. C'est-à-dire que leur liberté, par exemple, de porter une arme, c'est quelque chose qui est très très important pour eux. Et entre autres, une des règles, alors qui est plus ou moins présentée ici, c'est qu'en théorie, ils peuvent écouter qui ils veulent d'Européens depuis très longtemps, et c'est assez nouveau qu'ils ont mis en place de la surveillance des Américains sur leur territoire. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas le droit. Donc c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Enfin, c'est-à-dire que grosso modo, quand on est européen, quand on va... D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Mme Merkel quand elle a été écoutée. Ils avaient le droit. Enfin, ils l'ont fait. Et ça, à part lutter, si on peut lutter, entre guillemets, à armes égales, enfin, c'est assez compliqué. C'est parce qu'après, c'est plus des luttes économiques. Est-ce que j'ai le droit de dire... grosso modo, est-ce que c'est pas du protectionnisme de dire ben l'État français interdit d'utiliser Google, enfin, je sais pas. Est-ce que l'État français devrait mettre aussi en place des services jusqu'à présent de ce type-là? Jusqu'à présent, ça n'a pas forcément bien marché non plus. Voilà. Je sais pas si tu...
Oui, moi encore une fois, ce que je dirais, c'est que. On est un peu écrasé par l'omniprésence d'un certain nombre de technologies qu'on constate. Hein. Bon, alors tout le monde sait que LinkedIn, ça existe, Facebook, ça existe, et puis Google, ça existe. Hein, voilà. Mais il y a des alternatives à ça. Hein. Vous pouvez ne pas utiliser... Je vais prendre un exemple. On vient de découvrir récemment un truc tout à fait étonnant qui me laisse pantois. C'est qu'on a trouvé dans Microsoft, dans le système d'exploitation de Microsoft, des morceaux de Linux. Alors, je ne sais pas si vous savez, tout ça, c'est du jargon d'informaticien. Mais, si vous voulez, il existe, par exemple, sur les systèmes informatiques, des alternatives qui sont... vous utilisez l'informatique comme vous utiliseriez une bicyclette, sans trop savoir de quoi tout ça est fait, etc. Mais... il faut savoir, et c'est le rôle, je pense, de l'école, c'est le rôle des gouvernements, c'est le rôle de l'université, etc., de faire le point sur ces technologies, de mettre en exergue les alternatives, de montrer, par exemple, dans le cas de la protection de la vie privée, y compris à l'égard de Google, que vous pouvez utiliser d'autres moteurs de recherche que Google. Enfin, vous avez des moteurs de recherche qui, aujourd'hui, s'engagent. Si vous voulez, ces gens-là qui évidemment, moi, mon point de vue, si vous voulez, c'est que ces gens-là coincent tellement leurs utilisateurs qu'à un moment donné, le risque qu'ils prennent, que Facebook prend très clairement, c'est de voir surgir un nouveau système de réseau social qui apportera des garanties, si vous voulez, en termes de protection de la vie privée, qui seront nettement supérieures à celles de Facebook. Et à ce moment-là, vous verrez les gens fuir en masse Facebook et aller se transporter, en quelque sorte, sur ce nouveau réseau social qui apporte de nouvelles garanties. C'est-à-dire qu'on est engagé dans une espèce de mouvement dans lequel vous avez un rôle à jouer, et ce rôle, en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant que personne qui font des choix éclairés. Alors je sais bien que tout va très vite, que les informations... c'est quoi les réseaux sociaux, enfin, on est un peu embêté avec tout ça, mais je veux dire, vous avez des positions à prendre, des choix à faire, vous avez, de la même manière que vous choisissez la marque de la machine à laver que vous achetez pour laver votre linge, vous pouvez aussi utiliser des butineurs à la place de Chrome ou de Netscape ou d'autres choses, de Microsoft Internet Explorer, vous pouvez utiliser d'autres outils qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et qui effacent leurs traces en sortant. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils font le ménage, et vous n'avez pas, et Google n'a pas de traces de vous sur votre activité dans l'Internet. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est ce que disait un type qui s'appelait Philip Zimmermann, qui était l'inventeur de PGP, donc d'un protocole très connu qui est un protocole de cryptage. Alors lui, il a eu des ennuis avec la CIA et puis avec le FBI. Alors ça a été monumental, parce qu'évidemment, le FBI ne pouvait pas supporter qu'on se mette à crypter des trucs et qu'il ne puisse plus les lire. Hein. Et donc lui expliquait une chose très simple. Il disait, si je suis tout seul à utiliser un protocole de cryptage, hein, bah, tout le monde va me regarder en se demandant ce que je fais, hein, et qu'est-ce qu'il y a dans le truc que je crypte. D'accord ? Mais si on est tous ensemble en train de faire ça, vous voyez ce que je veux dire ? Si on est tous solidaires, si finalement on utilise tous des outils. Autrement dit, si on a tous des exigences de haut niveau sur la question de notre vie privée, bah, à un moment donné, ça devient beaucoup plus compliqué, si vous voulez, de nous accuser tous d'être collectivement des gens mal intentionnés. Il est bien clair que la seule chose qu'on fait, c'est qu'on protège notre vie privée.
Oui, vas-y, vas-y.
Je vais être un peu plus très pragmatique. Je devais partir en voyage avec des copains, et puis je vais sur un site pour chercher un avion pas très cher. Je tairai la compagnie, donc je jette un petit coup d'œil, je vois combien ils me proposaient au niveau du tarif. Je reviens une heure plus tard, le tarif avait augmenté. Donc voilà, je réfléchis, je téléphone à un copain sur Lyon pour prendre une décision. Donc il se met sur le même site, hein, il consulte la même annonce, et son tarif était plus bas que le mien. Donc là, ce n'est pas des données personnelles, je n'ai pas rentré mon prénom, mon nom, mon âge, mon numéro de sécu. Par contre, il touche à mon portefeuille, parce que mon copain à Lyon, on lui proposait sur la même compagnie un tarif plus bas que le mien. Donc, comment se protéger de ça? Parce que là, je pense que ça doit être... Ils doivent reconnaître les adresses IP, voir combien de fois j'ai consulté l'annonce, et puis ils en profitent pour augmenter les enchères. Enfin, donc, ça, comment on peut se protéger? Et est-ce qu'on peut se protéger de ça?
Ben, ça, c'est compliqué. Bon, déjà, il y a deux moyens de vous tracer. Il y en a un dont vous avez parlé, c'est l'adresse. C'est-à-dire que vous avez un identifiant unique sur votre ordinateur, ce qu'on appelle une adresse IP, qui vous est donnée et qui est nécessaire pour trouver le chemin des paquets lorsqu'ils transitent sur le réseau, des messages. Donc ça, il y a déjà ce premier aspect-là. Et à part changer de lieu géographique, c'est-à-dire vous faites une première recherche de chez vous et puis vous faites une deuxième recherche de votre bureau, voilà, c'est une façon de faire. Après, à côté de ça, pour différentes raisons techniques, des fois, votre fournisseur d'accès vous change d'adresse du jour au lendemain. Et donc, pour éviter ces problèmes-là, les personnes qui essaient de vous tracer, alors pas forcément pour des mauvaises raisons, hein, parce que des fois, il y a plein de bonnes raisons de tracer les gens. Je prends un exemple simple. Vous êtes en train de faire une commande tout à fait normale où vous avez envie d'acheter quelque chose et là, à un moment donné, il y a un problème technique et votre navigateur plante. Si vous voulez réouvrir votre navigateur et ne pas réavoir à tout refaire le processus jusqu'à la fin, ben quelque part, on a enregistré sur votre disque dur l'endroit où vous en étiez de cette commande. Ça vous permet de continuer et de revenir juste où vous n'avez qu'à compléter la dernière étape de la commande. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon informatique, un cookies qui est mis sur votre disque dur à ce moment-là et qui va permettre, après, de vous identifier, de vous tracer, enfin, entre guillemets, de savoir où est-ce que vous en étiez à tel moment d'une transaction. Donc après, ça, ce sont des fichiers que l'on peut effacer, enfin, sans aucune difficulté. Tous les navigateurs proposent la possibilité d'effacer les cookies. En plus, on peut les effacer... Chaque société différente, bien sûr, chaque site internet différent sur lequel vous avez va déposer des cookies spécifiques qui sont bien identifiés. Et vous allez, si vous avez envie, mettons, cette agence de voyage, vous avez le cookies qui est à cette agence de voyage, vous pouvez supprimer le cookies qui va vous permettre d'être en partie anonyme si entre-temps vous avez aussi changé d'adresse IP.
Vous avez une partie de la réponse. Après, il faut un peu décoder. l'emploi. Mais vous comprenez bien que c'est un problème d'adresse IP. Donc si vous aviez les moyens de changer d'adresse IP, hein, au passage, vous trompez le service en face qui, lui, pense que ça n'est pas vous. Hein. Vous n'êtes pas revenu une deuxième fois. Bon, après, on ne change pas aussi facilement que ça d'adresse IP sur sa machine. Hein, d'accord. Autrement dit, c'est comme de changer la plaque de votre logement, vous savez, au 11 de la rue du Trésor. Hein, d'accord. Bah, c'est un peu ça, changer d'adresse IP. Hein, vous ne pouvez pas faire ça parce que le pauvre facteur, il ne sait plus où poser les lettres. Donc, vous êtes obligé de... Voilà, vous vivez dans un monde numérique dont vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Hein. Enfin, encore une fois, vous pouvez avoir un usage du numérique qui est un usage mesuré du numérique. Il y a des choses qui sont un peu incontournables, c'est clair. Il faut arriver à trouver la bonne distance par rapport à ça et puis à adapter des comportements. Puis à savoir jusqu'à quel point vous voulez passer 3 heures à bosser sur la question des cookies de mon collègue pour économiser 23... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que votre... Le coût-bénéfice de l'opération, enfin, soit un peu proportionné, disons, à l'enjeu. Alors, vous ne pouvez pas éviter que les stratégies commerciales, des stratégies commerciales innovantes, entre guillemets, surgissent. Bon, nous, on sait, je sais qu'il y a dans la salle quelques informaticiens, on sait qu'il y a des choses en préparation dans les tiroirs qui sont... auxquels, d'ailleurs, parfois même, nous, on a l'audace de participer, hein, qui sont des trucs... qui ont à voir quelque part avec ça, mais qui peuvent avoir aussi d'autres utilités. Bon, je pense par exemple à un truc qui s'est généralisé en quelques années, qui est ce qu'on appelle la recommandation. Hein, c'est-à-dire, en fait, quand vous allez sur Facebook, on vous propose des... comment en fait, c'est vous le produit? Enfin, vous l'avez compris. Hein. Dans Facebook, le produit, le modèle économique de Facebook, c'est assez simple, c'est vous le produit. Hein, d'accord? Donc tout, vous avez, d'ailleurs, ils l'ont dit, hein, ils ont dit la valeur boursière de Facebook, c'est le nombre de gens que Facebook a. C'est drôle, ça, que Facebook a. Voilà. Donc, c'est vous le produit. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est à vous de régler la distance et d'essayer de savoir jusqu'à quel point vous acceptez qu'on vous traite comme un produit. Voilà. Et qu'on traite vos... Alors, le mécanisme de recommandation, ça va consister à essayer de faire... de vous suggérer, d'accord, à partir de ce qu'on connaît de vous, des informations dont on dispose, de vos profils, de vos centres d'intérêt, de votre expérience passée dans le web, des choses que vous êtes allé voir, des amis que vous avez, etc. On va vous en proposer d'autres. Hein, on va vous proposer d'entrer en relation avec X, Y ou Z, d'accord, parce qu'évidemment... on a intérêt à créer de la connexion dans le réseau. C'est-à-dire on a intérêt à faire en sorte, enfin Facebook a intérêt à ce que cette espèce d'immense graphe social, hein, augmente dans des proportions considérables. Voilà. Puisque la valeur boursière de Facebook dépend de la taille du graphe social, il faut absolument que le graphe augmente. Voilà. Ça dépend de vous. Aristote disait, quand on c'est un vieux bonhomme, mais il disait, quand on a trop d'amis, on n'a pas d'amis. Voilà. Mais allez sur Facebook, il y a des gens qui ont 3 millions d'amis. Enfin, c'est pire que la fameuse émission de la télé.
Au niveau légalité, est-ce que je consulte un site, on propose un tarif, 2 minutes après, ce tarif augmente, et le voisin... Donc, est-ce que le site ou la compagnie aérienne a le droit de faire cette pratique au niveau du consommateur ?
C'est plus un problème informatique, là. Hein, c'est un problème politique ou commercial ou légal.
C'est géré quand même par un programme informatique.
La bourse marche sur ce principe-là. Et c'est quelque chose qui existe depuis... je ne sais plus combien d'années, mais le cours de bourse, il varie à un instant T plus 1, on peut avoir tout gagné ou tout perdu. Et c'est accepté. Donc, je ne dis pas que je suis pour, hein, mais...
On va prendre un autre exemple qui est un exemple très difficile, qui peut avoir des conséquences terribles. C'est les systèmes d'enchères inversées pour le boulot. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Alors ça, c'est un système, il s'est trouvé évidemment un informaticien pour vous inventer un truc génial, qui est simple, hein, vous dites, voilà, j'ai du ménage à faire chez moi, qui ça intéresse, hein, allez-y. Ah, Paturel, tu viens faire le ménage chez moi pour 50... Ouais, tu as du temps libre. De toute façon, c'est un plaisir de faire du ménage chez moi. Donc, tu ne vas pas me demander trop cher. Hein, voilà. Il va se trouver ton voisin, lui, il va dire, non, non, moi, j'ai envie de faire du ménage chez toi. Je vais faire mieux que lui. Hein, je vais faire... Mais c'est une enchère descendante. C'est-à-dire que je vais... Paturel, il me l'a fait à 50 euros. Hein, toi, tu me l'as fait à 40. Ainsi de suite. D'accord ? Ça, c'est en Allemagne. En France, c'est forbidden. C'est interdit. En Allemagne, maintenant, c'est interdit aussi, je crois. Mais j'en suis pas sûr. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir ce type de système qui est inventé par un informaticien savoyard, ou même franc-comtois, ou même lyonnais, et vendu à une entreprise française pour mettre ça en place sur le plan... Vous voyez ce que je veux dire ? On est protégé de ce genre de système. Malheureusement, la SNCF, elle, elle vous fait, de, elle vous fait du billet à la tête du client. Hein, c'est-à-dire que là, c'est clair, vous passez 3 minutes après, vous avez 200 euros pour Chambéry-Paris, alors que vous l'auriez pris 5 minutes avant... Vous étiez encore à 50 euros. Hein. Mince. C'est comme à la bourse, ouais, c'est ça. Là-dessus, je ne connais pas le... Voilà, on ne connaît pas, nous. Enfin, bon, on n'est pas...
Merci.
Oui, oui. J'aurais une question sur ce qu'on appelle le logiciel libre. Donc, vous parliez de l'exigence, en fait, des utilisateurs. Une des exigences... à laquelle propose de répondre le logiciel libre, c'est de connaître le code source donc des programmes qu'on utilise. Par exemple, un navigateur, on peut utiliser Mozilla. Normalement, presque tout le code est donné. Au lieu d'utiliser Dropbox, on peut utiliser Framadrop. Au lieu d'utiliser Dropbox, on peut aussi utiliser OwnCloud, etc. Donc, il y a à peu près tout existe en version libre. Comment ça se fait finalement que l'extrême majorité de nos données sont centralisées par 5 grandes entreprises, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft? Est-ce que c'est juste un problème de formation, comme évoquait l'autre intervenant, des gens, ou est-ce qu'en fait c'est une fausse alternative et au final on va tout autant perdre nos données, ou notre vie privée en tout cas? Voilà, enfin, qu'est-ce que vous pensez du logiciel libre?
Bien.
Donc, il faut savoir que les sociétés en informatique sont là pour faire de l'argent et sont là aussi pour faire gagner de l'argent des investisseurs. Et que donc il y a des gens qui investissent, qui veulent rentabiliser leur investissement et qui vont assez souvent, entre guillemets, soit être un petit peu en avance technologiquement, soit... avoir par des moyens détournés, ce qui n'est pas une avance technologique, mais plus simplement, on va dire, de la publicité, capter des utilisateurs. Une fois qu'on a des utilisateurs qui ont été captés, entre guillemets, c'est très compliqué de les faire changer de système. Ça fonctionne, ça arrive, mais c'est très compliqué. Je prends un exemple simple, hein, enfin, donc Facebook. Si vous avez votre réseau social qui est sur Facebook, vous avez vos amis qui sont sur Facebook, la plupart du temps, les gens vont se dire, bah, tiens, je vais créer aussi un compte Facebook. Ils ne vont pas forcément aller voir à côté. Voilà. Donc, sur d'autres logiciels comme, par exemple, Mozilla, il y a des logiciels qui sont très bien, enfin, qui sont très bien faits, mais c'est vrai que des fois, étant donné qu'ils sont développés par des sociétés qui ne sont pas prévues pour faire gagner de l'argent, enfin, in fine, parce que le logiciel, il est développé assez souvent par des gens qui sont, entre guillemets, bénévoles, au début, au moins. Et il n'y a pas forcément des grosses sociétés d'investissement qui sont derrière ces personnes-là. Donc, il n'y a pas forcément la publicité. Il n'y a pas forcément le buzz qui est créé autour de ça. Et donc, qui fait qu'ils sont, in fine, beaucoup moins utilisés que les autres.
Oui, enfin, vous avez raison quand même de souligner que... Alors, évidemment, quand on dit... une des questions, c'est évidemment que fait ce logiciel qui fait des choses pour moi, hein, ça fait quoi le truc là qui m'augmente le prix toutes les 5 minutes? Comment ça marche, quoi, en fait? Et quel accès j'ai au cœur du truc qui fait ça, qui réalise cette fonction-là, quoi, voilà. Donc, alors après, évidemment, lire du code dans le texte, c'est pas aussi simple que de lire Racine ou Molière, hein, ça devient plus compliqué parce qu'il faut une expertise que la plupart des gens n'ont pas. Mais il y a suffisamment d'ingénieurs de bonne volonté pour vous expliquer les choses et en tout cas s'appuyer là-dessus pour faire des choses. Il y a par exemple des gens qui travaillent actuellement sur un protocole de cryptage qui s'appelle PIP, c'est-à-dire Privacy, qui est un protocole easy, ça veut dire très simple à utiliser, d'accord, dont le code est connu et qui vous permet de crypter tous vos messages systématiquement à partir de vos applications courantes sans que vous ayez aucun effort à faire, technologique à faire, hein, d'accord. C'est une décision qui dépend de vous, de savoir si, voilà. Alors le logiciel libre, c'est effectivement un lieu intéressant parce que c'est le lieu où on sait finalement ce que les logiciels font. Un des problèmes de Google, vous savez par exemple que l'algorithme de recherche, l'algorithme qui permet de vous fournir des réponses à des requêtes sur Google, n'est un algorithme qui est fait l'objet d'une protection intellectuelle. Vous n'avez pas accès à cet algorithme. C'est-à-dire en clair, quand vous lancez une requête sur Google pour savoir quel est le meilleur site qui va me fournir le meilleur prix pour mon transport, d'accord, on vous donne des réponses, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous avez des réponses dans l'ordre où vous les avez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, et pourquoi on vous donne tel site d'abord et tel lien ensuite, etc., etc. Ça dépend de la façon dont est organisée la recherche par le moteur de Google. Et ça dépend donc d'un code informatique auquel vous n'avez pas accès. Vous ne savez pas en réalité ce qu'il fait. C'est un secret maison. Voilà. Donc, vous comprenez bien que la dimension du problème. Hein, c'est-à-dire qu'on est devant quelque chose où finalement... Il y a une tension entre l'open, enfin ce qui est ouvert, transparent, la transparence, la nécessité de transparence, des contraintes industrielles où il faut protéger les avancées technologiques parce qu'il y a des investisseurs, etc. Et puis un patrimoine qui repose essentiellement, et c'est ça la grande leçon du truc que vous avez vu ce soir, c'est sur vous, c'est-à-dire sur qui vous êtes. C'est vous la vraie valeur, d'accord ? Voilà, du point de vue de ces entreprises, bien entendu. On peut avoir une vision très différente de l'économie en général. Mais dans ce cas-là, c'est vous le produit.
On va peut-être prendre encore deux ou trois questions, puis on arrêtera. Donc, il y a quelqu'un là-haut, je l'ai vu, puis madame.
Bonsoir. Alors, moi, je ne suis pas vraiment novice sur le sujet. Je suis contributeur à Mozilla et à Framasoft. Et donc, on a bossé sur les nouveaux outils du web et on va intervenir aussi sur Grenoble dans toute la France. Je suis très content de voir qu'il y a des gens qui ont eu l'initiative de faire ça à Chambéry aussi. Et je voulais réagir un peu à ce qui a été dit à droite, à gauche, à commencer par la question sur « je suis en France, je suis protégé par la CNIL, c'est bien ». Non, juste non. Vous avez probablement un téléphone Google ou Apple. À partir de là, vous avez un compte pour pouvoir avoir accès à des applications. Vous êtes surveillé tout autant que si vous étiez aux États-Unis ou en Chine. Il n'y a aucune différence. Voilà. Donc la solution, on a posé la question comment réagir. Oui, une des premières choses à faire, ça peut être de réagir sur le plan juridique pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Il y a une association en France qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est un lobby donc, qui étudie et qui épluche tous les textes qui passent à l'Assemblée, etc. Au niveau européen aussi à Bruxelles. Pour essayer de faire peser l'avis des citoyens. C'est une association qui refuse complètement toute aide d'État et qui vit que par les dons pour être complètement indépendante. Donc ça peut être un premier beau geste pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Et après, parce que ça ne suffira pas, évidemment, le plan juridique, on l'a vu dans le film, les gouvernements ont intérêt à ce que ce système, ce business model continue, que les entreprises continuent d'exploiter nos données, parce que c'est grâce à ça qu'ils nous surveillent. Donc on ne peut pas compter sur les gouvernements. Et donc, il faut passer à l'intervention technique et se protéger et protéger ceux qu'on connaît au quotidien. Et donc là, on l'a dit, la première chose, c'est d'utiliser du logiciel libre, puisque c'est le seul dans lequel on peut avoir confiance. La deuxième chose, c'est d'arrêter d'utiliser tous les services qu'on a vu listés, particulièrement les 8 qui font partie de Prism, avec en tête Google et en deuxième Facebook. Et la troisième chose, c'est d'essayer de se protéger, même quand on n'utilise pas ces services. Et ça consiste à régler son ordinateur pour ne pas être surveillé quand on est en ligne. Donc typiquement, paramétrer Firefox pour ne pas stocker les cookies tiers, qui sont donc des cookies des sites externes. Donc, là, on peut rentrer dans quelque chose de technique, on ne va pas le faire ce soir, mais si vous avez des questions plus précises, on verra à la fin pour ne pas assommer tout le monde. Mais voilà, après, il faut passer à la technique. Il faut protéger son ordinateur, chiffrer ses mails, etc. Ça peut être un peu plus compliqué. Donc là-dessus, je vous laisse vous rapprocher, soit tout simplement en cherchant sur Internet avec votre moteur de recherche préféré, qui n'est donc pas Google. Soit vous rapprocher du LUG local. Les LUG, c'est les groupes de personnes qui s'intéressent au logiciel libre. Il y en a dans toutes les villes. À Chambéry, il y en a un qui s'appelle Open Alpinux, qui sont des bénévoles et qui sont prêts à passer du temps pour vous aider, pour configurer votre ordinateur et vous apprendre comment tout ça marche. Voilà, ils sont à la maison des associations 2 jeudis par mois, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, on a un intervenant à côté.
Il faut quand même être un peu optimiste. Et quand vous dites que les gouvernements ne se soucient pas de la question, etc., je crois pas. Je crois que c'est un problème assez compliqué parce que ça met en jeu des régulations au niveau mondial et que les systèmes sont très différents les uns des autres, que philosophiquement, les systèmes juridiques, par exemple, ne sont pas alignés. Le droit d'auteur français n'est pas le droit d'auteur américain, etc. Enfin, le problème est très complexe, d'accord ? Mais en même temps, je pense qu'il y a... Bon, il n'y a pas de raison d'imaginer, si vous voulez, qu'on est dans un grand complot mondial, animé principalement par Facebook et par Google, qui conduit à nous priver de notre ressource essentielle, qui est notre vie privée. Je pense qu'il y a sincèrement... Enfin, il y a probablement des efforts qui sont lents de toute une série d'acteurs pour essayer de trouver des remèdes et des solutions à quelque chose qui, rappelons-le, quand même, n'a qu'une vingtaine d'années d'existence, hein, en clair, et qui, quand même, a surgi dans la vie de la plupart d'entre nous à un rythme effréné, sans même qu'on en ait réellement pris la mesure, sans qu'on ait la possibilité d'en prendre la mesure, hein, ne serait-ce que ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, être vigilant, il faut savoir... se protéger soi-même, hein, être responsable. Et puis après, il faut aussi être attentif aux initiatives qui sont prises ici et là pour essayer de régler un certain nombre de problèmes. Je pense, par exemple, il y a un mouvement en France qui s'appelle, par rapport à la transparence sur les données, Wikileaks, etc., il y a certainement des efforts en France sur la question de l'open data, c'est-à-dire en fait des données ouvertes, qui sont des initiatives tout à fait originales et qui permettent, par exemple, à un citoyen d'avoir accès à des informations financières, aux informations financières de sa commune, aux informations budgétaires de son État, à la nature de la dette, enfin, à des éléments comme ça. Voilà. Bon, alors tout ça met du temps à se mettre en place. Il faut des années d'efforts, probablement, pour arriver à décider toutes les administrations, à y passer, etc., etc. Mais, en même temps, ces initiatives existent, elles sont consolidées progressivement, et vous pouvez en bénéficier. C'est-à-dire que vous pouvez... Moi, je fais souvent, avec mes étudiants, aujourd'hui, des choses que je ne faisais pas il y a 10 ans, c'est-à-dire des travaux pratiques, d'accord, où, en fait, je vais collecter des données sur le web, qui sont des données d'intérêt public, hein, d'accord. Par exemple, je ne sais pas, moi, des données médicales, sur l'épidémiologie, hein, pour analyser une situation épidémiologique à partir de la propagation du virus de la grippe en France pendant l'hiver 2012. Et puis, je leur demande de me produire, à partir des données qu'ils extraient de l'Internet, des présentations intelligentes et intéressantes de ces phénomènes, d'accord ? Mais ça, je peux le faire parce que les organismes chargés de produire de l'information, font l'effort, si vous voulez, de rendre ces informations accessibles sur Internet et de donner accès aux simples citoyens à des informations qui, en tout état de cause, peuvent être très intéressantes pour la consommation du consommateur averti, pour l'information du citoyen averti, voilà, etc., etc. Donc, il faut essayer de trouver, dans tout cet ensemble de choses un peu complexes, essayer de trouver... les points sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer, quoi. Voilà. La situation n'est pas aussi, me semble-t-il, dramatique. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire, hein. Dramatique que le film aurait tendance à essayer de le démontrer.
Oui, je répète, hein, ce qu'il a dit en aparté, le sujet est sérieux, donc on l'a bien compris. Peut-être encore une ou deux questions, puis on arrêtera la soirée parce que l'heure passe.
Justement, je suis membre d'Alpinux, donc qui est le LUG de Savoie, enfin le LUG Chambéry. Vous parliez comme quoi c'était pas si il n'y en a pas de théorie du complot. je suis d'accord avec vous. Mais par contre, quand vous parliez de la protection des personnes, notamment au niveau de l'enseignement, il y a quand même un problème. Quand on voit, par exemple, que ça fait des années que la réunion de l'inspection générale pour les travaux sur Internet se fait dans les bureaux de Microsoft, et que, par exemple, Mme Belkacem, qui est le ministre de l'Éducation nationale, vient de signer une convention pour faire une grande partie de ces travaux-là à partir d'outils Microsoft, on est quand même en droit de se poser des questions. Si on n'a pas une liberté au niveau de l'enseignement, comment ça voulez-vous qu'après, on ait une liberté au niveau de l'utilisation du citoyen?
C'est compliqué. Enfin, comme on l'a dit, enfin, il y a du lobbying. Après, la liberté de l'enseignement, justement, enfin, nous, on est assez libres. Les enseignants du secondaire, du primaire sont aussi assez libres.
C'est plus très vrai dans le secondaire. C'est plus du tout vrai. C'est-à-dire qu'on a une partie des outils qui nous sont imposés. Vous êtes dans le supérieur, vous avez une assez grande liberté. Ce n'est plus du tout vrai dans le secondaire.
Ben, vous avez un bulletin de vote.
Qu'est-ce que je vous dis ?
C'est évident que les grandes sociétés vont faire du lobbying, et ça a toujours été le cas. Vous avez, comme vous dites, hein, vous faites partie d'une association, vous alertez, vous informez les gens, c'est ce qu'il faut faire. Après, moi, je ne peux pas vous donner de solutions toutes faites sur ces points-là. Enfin, moi, par exemple, moi, je forme des étudiants. Je les forme à moitié sur les deux systèmes d'exploitation. Enfin, c'est obligatoire. Enfin, je ne vais pas dire prendre parti pour Microsoft, pour Linux. Quand ils vont être en entreprise, dans 80% des cas, ils vont travailler sur du Microsoft. Moi, je forme aussi des gens qui vont sur le marché du travail. Je suis là aussi pour leur faire voir d'autres choses que ce qui a forcément de répandu, donc je fais aussi du logiciel libre. Actuellement, il y a encore une majorité de choses qui sont faites sur du logiciel libre. Alors visiblement c'est plus le cas, mais je pensais que moi c'était encore le cas. J'ai pas de solution véritable.
Je vois de à quoi vous faites référence, mais c'est clair qu'il y a un problème de neutralité. C'est certain, il y a des rapports de force, il y a des historiques. Je veux dire, Microsoft a été très présent dans l'éducation nationale depuis les origines, et pour de bonnes et de mauvaises raisons aussi. De bonnes raisons, parce que, si vous voulez, pour qui a déjà goûté au logiciel libre du point de vue de l'utilisateur final, ça peut s'avérer être un peu compliqué. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. D'une manière générale, on tend à la neutralité. Hein. Je pense que l'Internet cherche ça, une forme de neutralité qui vous met à l'abri des pressions économiques, etc. On est loin du compte, hein, je suis d'accord. Mais en même temps, il y a une voie qui... Bon, il est vrai que nous, on a une pratique un peu... Nous, avec nos étudiants, on leur donne le choix. La plupart du temps maintenant, honnêtement, au moins à des niveaux avancés, les étudiants ont leur propre machine, ils viennent avec ce qu'ils veulent. Et il n'y a aucune contrainte imposée en matière de logiciels et de systèmes d'exploitation. Ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils viennent avec les outils qui sont les leurs. Et nous, on organise par exemple des séances de travaux pratiques sur la base des matériels qui sont les leurs. Donc on est vraiment dans une situation très différente de celle qu'on connaissait il y a 10 ans ou 15 ans. Voilà. Tout ça évolue tout doucement, mais il faut comprendre que ça ne peut pas évoluer du jour au lendemain. Après, vous ne pouvez pas non plus interdire à un éditeur aussi prestigieux et important que Microsoft de faire une offre à l'éducation nationale en lui disant « moi, je suis prêt à aller dans les établissements scolaires, présenter un certain nombre de choses ». Enfin bon, moi j'imagine que il n'y a pas que les éditeurs de logiciels qui font ça. Hein. Les éditeurs de manuels font ça aussi. Enfin, tout le monde s'y met. Voilà. Je crois qu'il faut regarder... Enfin, c'est compliqué, si vous voulez. Il faut se garder d'une vision trop manichéenne des choses. La situation est déjà suffisamment embrouillée comme ça pour qu'on évite... il y a des niveaux techniques qui sont très compliqués. Et puis, en même temps, il y a des usages qui évoluent. Et puis, en même temps, ben, on a un rôle à jouer nous-mêmes là-dedans. Et pour arriver à jouer ce rôle, ben, il faut avoir quelquefois quelques principes assez simples qui permettent de faire respecter ses droits. Quoi, voilà. que je dis, là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon, en même temps.
Je crois qu'on va arrêter là, parce que l'heure passe, et puis j'ai l'impression que le débat pourrait durer des heures, parce que, en effet, c'est compliqué, multifactoriel, etc. Donc je vous remercie tous d'être venus ce soir. Juste pour vous signaler nos trois prochains cafés ou cafés cinéma. Le prochain, si je ne me trompe pas, sur les animaux, sont-ils non seulement intelligents, mais aussi conscients? Alors il y a un point d'interrogation, bien entendu, à la fin du titre. C'est un peu aguicheur pour que le public vienne nombreux. Le tout dernier au mois de mai sera sur les nouvelles techniques en médecine, hein, la médecine du futur, les nouveaux médicaments, etc. Et puis entre-temps, il y aura aussi un film qui tournera peut-être autour de l'odorat, mais on vous confirmera ça plus tard. Merci et bonne soirée.